Salut tout le monde, bienvenue à C'est quoi tes spécialités? Aujourd'hui, on a reçu Dr Naïm Bojani, qui est un neurologue au CHUM.
Ouais, puis honnêtement, encore une fois, c'est tellement une belle discussion. C'est un médecin en or. Il nous a dépeint un portrait de l'urologie, je pense, qui est vraiment très véritable de ce que c'est. Il nous a amené des excellents points. Il parlait beaucoup de la qualité de vie dans le domaine chirurgical, quelque chose qui est souvent oublié, je pense, par beaucoup de chirurgiens. Donc, vraiment, c'est une spécialité à découvrir. Bonne écoute! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecin. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Okay, merci beaucoup, Dr Bojani, d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir.
Donc, nous, on aime ça comme retourner un peu au départ. Est-ce que vous avez toujours su que vous étiez fait pour faire de la médecine?
Vraiment pas. C'est intéressant de voir les autres podcasts, mais pour moi, ça n'a jamais été quelque chose que je pensais à faire toute ma vie. Là. Moi, j'ai une sœur qui est plus âgée que moi. Et mon père, ma sœur, mes tantes, mes oncles, mes cousins sont tous des comptables. Tout le monde, c'est des comptables. Donc, moi, c'était ça le but, là, c'était d'être comptable. Donc, jamais médecine. Donc, mon parcours est un petit peu plus compliqué.
Qu'est-ce qui vous a fait par le souhait?
Moi, ma sœur a 3 ans plus vieille que moi. Donc, je suivais, puis elle avait, en école secondaire, elle n'était pas capable de maîtriser les sciences. Ça marchait pas. Donc, elle a changé complètement en comptable. Alors, moi, j'avais dit, mais moi, je vais être différente. Moi, je suis plus jeune, donc moi, je vais être capable. Donc, après le secondaire, le cégep, j'allais au collège Champlain. Et j'ai dit, je vais faire les sciences. Donc, j'ai fait les sciences 2 ans, mais c'était juste surtout pour dire que j'étais capable. Que ma sœur n'était pas capable, moi, je vais être capable. Donc, j'ai fait les sciences.
Petite compétition. Là.
Oui, exact. Puis parce que j'ai vu les questions, j'ai dit, mais c'est vrai, qu'est-ce que je voulais faire? Après ça, il fallait appliquer à l'université. Donc, j'ai appliqué à McGill en sciences. Mais quoi faire en sciences? J'ai dit, mais microbiologie avait l'air vraiment intéressant. Donc, j'ai appliqué en microbiologie, immunologie. Et j'ai rentré. J'étais super content, mais j'avais aucune idée ça veut dire quoi. Microbiologie, immunologie. Je savais que c'était des sciences, des bactéries, c'était intéressant. Alors, j'ai rentré en microbiologie, immunologie à McGill. J'ai fait la première année, je trouvais ça vraiment intéressant, intense quand même, très intense. Les classes en n'importe quelle spécialité ou bac à McGill sont énormes. Les classes sont énormes. Physiologie, il y a comme 500 élèves. Microbiologie, immunologie, on était 200 quelques. Tu viens comme cégep où il y a comme 30-40 étudiants.
Ouais.
Alors, je fais ça 1 an. Puis là, j'ai dit, mais là, il faut que je décide si je veux continuer dans ça. Ça veut dire quoi d'être microbiologiste? Donc, j'ai travaillé l'été dans un laboratoire. Et ça, j'ai vraiment pas aimé. On faisait du PCR, Western Blot. Vraiment, c'était le fun, mais je voyais que c'était pas pour moi, ça. Alors, après la deuxième année, donc je fais 2 étés où je travaille à la même laboratoire, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Donc, j'ai dit, je vais changer. Je vais faire quelque chose plus avec les patients, t'sais, plus... pas maîtrise PhD. Donc, je voulais pas faire ça. Donc, et ma blonde... à cette époque-là, qui est maintenant ma femme, était en train de faire la physiothérapie à McGill. Alors, j'ai dit, je vais appliquer en physiothérapie. Donc, j'ai appliqué je n'étais pas pris. Et je suis allé voir la directrice de physiothérapie. J'ai dit, mais j'aimerais vraiment faire ça. Puis elle m'a dit, mais il n'y a pas de place. Je dis, OK. Donc, ils m'ont mis sur la liste d'attente. Et le jour avant que je commençais mon 3e année de microbiologie et immunologie, il y avait une place ouverte en physiothérapie. Donc, j'ai changé en physiothérapie. Et j'étais super content. J'ai dit, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Je vais être physiothérapeute. Alors, j'ai fait 3 ans de physiothérapie et j'ai fini ma bac de micro aussi parce qu'il me restait comme 5 cours. Alors, j'ai fini la physiothérapie. J'étais super content. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et je dis, je vais faire ça. Alors, j'ai commencé à travailler au Royal Victoria, l'ancien hôpital. Et j'haïssais ça.
Oh.
J'ai vraiment pas aimé ça, mais c'était surtout parce que le milieu de travail n'était pas optimal. T'sais, c'était surtout à l'étage de vasculaire où il fallait surtout faire marcher des patients. C'était pas vraiment ce qu'un physio peut faire.
Mm-hmm. Vous avez travaillé combien de temps?
Juste 1 an.
Okay.
Mais 6 mois, pendant que je travaillais, 6 mois de où j'ai commencé, j'ai dit « c'est pas pour moi non plus ». Donc j'ai appliqué en médecine. Mais c'était tellement tard que je n'avais pas les MCATs. Et je voulais rester à Montréal. Donc, j'ai appliqué à l'Université de Montréal. Et j'étais pris. Il faut comprendre que moi, j'ai fait toutes mes études en anglais. Tout. Toute ma secondaire, cégep, universitaire. Puis, en tout cas, j'ai fait les entrevues. Puis, ça a marché. Puis, j'ai rentré à l'Université de Montréal en médecine. Mais donc, pour répondre à ta question, c'est... la médecine, c'était pas quelque chose que j'ai pensé à faire, mais je suis tellement, tellement content que j'ai eu cette chance de faire la médecine. Puis on va en parler, j'imagine, mais on est très chanceux, je pense, de faire ça. C'est ça. Donc, j'ai fait médecine 4 ans en français. C'était difficile au début.
Ouais, la transition.
Ah aussi. Oui. C'était... Mais la bonne chose, c'est que nos livres sont tous en anglais, quasiment.
Ouais.
Puis comme je suis né à Montréal, je comprends très bien. Je parle pas pire, mais écrire, c'était difficile. On avait le droit d'écrire nos examens en anglais la première année.
OK.
Donc, c'était pas si pire. Il y avait aussi peut-être 12 d'anglophones sur une classe de 200 élèves. C'était un gros... c'est pas si gros à McGill, hein, je pense.
Je pense que c'est rendu environ ça.
Ouais,
environ
oui, ça. Hein?
Avec le campus Outaouais aussi maintenant qui est ouvert.
Oui. Mm-hmm. Oui, dans notre temps... donc, ma femme est allée à McGill. Elle avait une classe, je pense que c'était 100 élèves.
Wow.
Donc, on était de double de ça. Donc, mais ça s'est pas bien été. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je suis toujours été quelqu'un qui aimait étudier, apprendre des choses. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, même si ça faisait 5 ans que j'avais déjà fait l'université.
Ouais.
Y a beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient comme fatigués, puis tu sais, des gens avec des bacs. Mais non, j'ai vraiment aimé ça. C'est ça.
Puis à quel moment là-dedans que l'urologie vous a tenté? Est-ce que c'était au début ou est-ce que vous saviez que vous alliez en chirurgie très
non,
en entrant?
Pas du tout. Moi, quand j'ai commencé l'externat, je voulais être pneumologue.
OK.
Oui, donc médecine interne.
Ouais.
mais j'ai décidé assez rapidement parce que j'ai commencé avec mon stage de médecine interne. Donc, je sais que j'ai écouté d'autres podcasts où les médecins ont dit que, comme Dr. Wissenji dit, qu'il aimait tout. Moi, c'était l'inverse. Donc, j'ai éliminé les choses assez rapidement, comme la médecine interne. C'est très différent. Je sais que vous voulez peut-être quelque chose de médecine interne, puis vous peut-être plus chirurgical. C'est très différent. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les étudiants, c'est d'essayer de décider entre les deux. Déjà, ça aide beaucoup. La chirurgie, c'est difficile à décider quelle spécialité chirurgicale on veut faire, mais c'est pas si difficile que ça, on va en parler. Mais, mais faire la distinction entre médecine interne puis chirurgie, je pense que c'est important, puis assez facile à faire. C'est très différent. Donc, j'ai fait médecine interne au début, donc j'ai rapidement vu que c'était pas pour moi. Et par chance, mon deuxième stage obligatoire, c'était la chirurgie. Et je pensais vraiment pas aimer ça. Honnêtement, après médecine interne, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être radiologie, obstétrique. J'avais vraiment... je savais pas. Alors, j'ai fait mon stage de chirurgie. Et à cette époque-là, c'était obligatoire de faire 2 semaines d'urologie. Et j'étais dans un hôpital plus petit, Notre-Dame, et il y avait juste un résident qui roulait le service. Donc, pendant 2 semaines, je faisais 2 semaines avec lui. Et c'est à cause de lui que j'ai décidé de faire l'urologie. Donc, après cet stage obligatoire de chirurgie, j'ai fait 4 semaines stage d'option en urologie à Saint-Luc. Saint-Luc, c'est l'ancien site du CHUM. Et c'était où était le directeur du programme. Donc, tu sais, quand vous voulez rentrer dans... Ça, c'est un autre sujet, là. Mais quand vous voulez rentrer dans une spécialité contingentée, il faut savoir où est le directeur du programme. Hein, si c'est important de travailler avec lui ou elle. Donc, c'est ça que j'ai fait. Je suis allé à Saint-Luc. Puis,
de se faire voir un peu, là.
Exact. Oui, super important, je pense. Les étudiants devraient... parce que là, si je ne me trompe pas, les nouveaux règlements, si vous avez juste 8 semaines hein, que vous pouvez faire dans une spécialité.
Oui, ouais. Exact.
Donc, c'est important de bien choisir le milieu. C'est ça. Donc, 4 semaines en stage d'option en urologie à Saint-Luc. Puis après ça, je pense que c'est tout que j'ai fait pour l'uro. Puis je fais d'autres choses, comme la recherche, qu'on va en parler peut-être. Mais, mais c'est surtout ça.
Qu'est-ce qui vous a accroché spécifiquement de l'urologie?
Oui, c'est ça que je disais que je pensais à est-ce que c'est vraiment juste l'urologie. Honnêtement, quand je pense, j'aurais probablement été contente dans les autres spécialités aussi chirurgicales. Je pense pas qu'il y a juste une spécialité chirurgicale qui est vraiment pour moi. Parce que une des choses positives en médecine, c'est que vous pouvez faire plein de choses dans toutes les spécialités. Hein? Donc, vous pouvez avoir une carrière plus académique. Vous pouvez avoir une carrière dans une centre universitaire ou dans une centre communautaire. Vous pouvez avoir une pratique avec beaucoup de recherche, un petit peu de recherche. Donc, vous pouvez varier votre pratique comme vous voulez. Les pathologies sont importantes, mais ça se ressemble. Alors, pourquoi l'urologie? Moi, je pense que ce que j'aime le plus d'urologie et ce qui m'a attiré le plus, c'est la qualité de vie. Je pense que c'est un aspect tellement important qu'on ne regarde pas souvent. Je pense que votre génération le regarde plus,
ouais,
qui est tellement, tellement bien. Dans notre génération, ou même avant nous, là, la qualité de vie n'était pas importante. Mais moi, je pense que c'est primordial. Je pense que c'est la chose la plus importante. Et l'urologie a une excellente qualité de vie.
Qu'est-ce qui fait qu'elle a une meilleure qualité de vie que les autres spécialités chirurgicales?
Alors, la qualité de vie est basée sur les gardes. Donc, tout le monde travaille fort le jour. Hein? En chirurgie, on commence plus tôt que la médecine interne, mais tout le monde travaille fort le jour. Ça, peu importe la spécialité. Ce qui change la qualité de vie, c'est vraiment la garde. Donc, si vous avez une garde qui est occupée, la qualité de vie ne serait pas vraiment bien. Donc, exemple, puis j'ai tendance à de parler de la chirurgie générale souvent parce que leur qualité de vie n'est pas super. Ils ont plusieurs pathologies qui peuvent venir la nuit. Et c'est pas juste qu'il y a plusieurs pathologies, c'est que quand il faut les gérer la nuit, c'est long. Par exemple, une appendice, c'est pas si long que ça, mais c'est quand même 45-1 heure. Une obstruction intestinale peut être 1h30, 2h, un abcès perforé. Donc, les chirurgies sont longues et ça arrive souvent. Par contre, en urologie, on a une quasiment urgence qui est une pierre infectée. Il faut le dériver le rein et ça prend une chirurgie d'à peu près 15 minutes si c'est long. Peut-être juste 5 à 10 minutes d'habitude. À part ça, il y a d'autres urgences, mais sont très rares. À moins qu'on travaille en pédiatrie, il y a des torsions testiculaires qui peuvent arriver, mais la plupart du temps, on dort la nuit parce qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Donc, je pense que c'est ça qui est vraiment important. La qualité de vie est tellement importante. Moi, j'ai des jeunes enfants, j'ai ma femme, évidemment. Puis, tu sais, la famille est importante pour nous. C'est ça qui m'a attiré beaucoup. L'autre chose, c'est urologie, c'est une spécialité où il y a une grande partie médicale. Il y a des urologues qui n'opèrent pas. Vous pouvez faire une pratique juste médicale. Moi, j'adore opérer, là, donc ce ne serait pas quelque chose que j'aurais fait, mais il y a des patients qu'on peut suivre pour l'HPP, hypertrophie bénigne de la prostate, on peut les suivre, les pierres aux reins. Donc, il y a une grande partie médicale. Donc, ça, c'est bien. Et il y a beaucoup, beaucoup de technologies en urologie.
Okay.
C'est une spécialité qui utilise beaucoup, beaucoup de lasers, beaucoup de lasers. Robots, évidemment. Donc, ça, c'est des choses qui m'a attiré à l'urologie. Mais je pense que pour les étudiants, c'est important de regarder la qualité de vie.
Mm-hmm. Oui, clairement. Là, c'est vraiment faire la différence.
Diriez-vous qu'il y a d'autres spécialités chirurgicales qui ont une qualité de vie similaire?
Oui, plastie. À moins que vous faites la transplant des doigts, réimplante. Mm. Qui d'autre? Le chirurgien général, c'est pas très bien. Et puis, je veux juste dire un autre dernier mot. Il y a beaucoup de gens en médecine, jeunes, qui disent « Mais moi, je veux être une grande chirurgien, puis je veux opérer des gros cas. Puis ça me dérange pas d'opérer la nuit à 1h, 2h du matin. Mm. » Mais c'est correct à 30 ans, c'est correct à 40 ans. Mais imagine 50 ans, 60 ans, de venir à 3 heures du matin, faire un cas de 2h30, c'est pas le fun. Donc, ouais. Faut regarder. Et je peux vous dire que l'urologie est aussi excitante, puis on fait des gros cas comme ils font en chirurgie, mais avec une qualité de vie. À part ça, donc ortho, il travaille beaucoup la nuit aussi, surtout trauma, obstétrique, évidemment, c'est toujours la nuit. donc plastie, ORL, ouais. C'est une excellente qualité de vie. C'est très rare des urgences la nuit, ophtalmo, évidemment. Donc il y en a plusieurs. Mm-hmm. Mais le meilleur, c'est sûr, de loin, c'est l'urologie, je veux dire, c'est... mais il faut que les gens viennent nous voir, faire un stage d'observation, voir c'est quoi exactement qu'on fait. Si ça vous intéresse, j'ai toujours des étudiants qui viennent à ma salle d'op. Vous êtes toujours invités, aucun problème, ça me ferait plaisir.
Puis, vous avez dit tantôt qu'après avoir choisi chirurgie ou médecine, choisir entre les différentes spécialités chirurgicales, que vous saviez un peu comment faire, genre que ça se faisait... Est-ce qu'il y a vraiment des différentes caractéristiques majeures que vous avez vues entre des différentes spécialités chirurgicales ou plus ou moins?
Je pense pas. Honnêtement, je pense qu'il faut... Encore une fois, les pathologies sont différentes, mais les traitements sont similaires. Tu sais, je veux dire... encore une fois, je pense pas que j'aurais été malheureux en chirurgie. Je pense pas que j'aurais été malheureux en vasculaire. Je pense qu'il faut regarder le tout. Regardez, est-ce qu'il y a des choses qui... Donc, exemple, un chirurgien ne peut pas suivre des hernies. Donc, il n'y a pas une partie médicale. Hein. Il opère beaucoup plus. On ne peut pas faire une carrière chirurgien général juste médicale. C'est-à-dire que nous, on a une grande partie médicale. Donc, si vous aimez ça, voir les patients, suivre les patients, ça va être plus euro. Si vous aimez la technologie, c'est plus euro. Si vous aimez la qualité de vie, c'est plus euro.
Tout est plus euro.
Mais c'est sûr. Et on s'entend que je suis biaisé un peu. On s'entend. Mais j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Vraiment, là, je suis vraiment chanceux.
Puis, quel pourcentage de votre semaine que vous êtes en salle d'opération versus plus en clinique?
Quasiment partout au Québec, c'est rare qu'on opère plus qu'une fois par semaine.
OK.
Des fois, oui, si vous opérez dans un autre hôpital. Mais exemple, au CHUM où je travaille, on est 15 urologues, puis tout le monde opère une fois par semaine.
Okay.
Alors, une fois par semaine, c'est la chirurgie. Une fois par semaine, c'est la clinique toute la journée. Une demi-journée de cystoscopie. Donc, une petite caméra, on va aller voir dans la vessie. Ça, c'est pour voir des patients qui ont des tumeurs de la vessie, l'hématurie macroscopique, patients qui urinent trop souvent, on va aller voir s'il y a quelque chose comme une pierre dans la vessie, par exemple. Donc, on fait ça une demi-journée d'habitude ou une journée par semaine. Après ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On fait des échobiopsies de la prostate. Moi, je prends un petit laser et j'enlève des petites tumeurs dans la vessie. Et ma carrière a beaucoup, beaucoup changé. Moi, je suis en pratique depuis 8 ans. Ça a beaucoup changé. Depuis 3 ans, je suis chercheur boursier. Vous savez c'est quoi?
Ouais. C'est le programme chercheur...
Clinicien-chercheur.
C'est exactement. Mm. Oui. Avez-vous eu d'autres mondes? Ah oui.
Ouais, quand même. Plusieurs qui nous ont parlé de ça.
Parce que je pense que dans le milieu universitaire, c'est quand même présent beaucoup.
Alors, c'est quelque chose qui est probablement extrêmement important si vous voulez avoir une carrière de recherche. C'est pas facile à avoir. Il y en a à peu près 40 par année.
Oh. Ah ouais.
Oui. Donc, ça, c'est pour avoir le Junior 1.
Ouais.
Puis ça, c'est au Québec. C'est juste au Québec, puis 40, c'est partout au Québec.
Wow. Oui. Okay. C'est vraiment moins que je pensais.
Oui, je savais pas qu'il y avait d'autres qui ont venu, mais super, là. Alors, et puis ça, c'est 40 au Québec dans toutes les spécialités. Ouais. Donc, en chirurgie, là, juste vous donner un exemple. En chirurgie, à l'Université de Montréal, il y a 3 qui ont le junior 1 comme moi. Il y en a 2 avec le junior 2, puis je pense qu'il y en a juste un senior. Donc, en total, dans le département, il y a peut-être 5-7.
C'est quoi la différence entre junior 1 et 2 et senior?
So, junior 1, c'est 4 ans. Alors, moi, j'ai appliqué pour mon junior 1 il y a 3 ans. Pour 4 ans, je suis couvert. Et puis après ça, on applique pour le junior 2. Donc, c'est un autre 4 ans. Mm. Après ça, c'est le senior 4 ans, puis c'est tout. Mais ce que ça donne, si vous l'avez, c'est 50 % de votre salaire est couvert par l'Association des médecins spécialistes du Québec.
Mm-hmm.
Donc, je fais un salaire d'un urologue moyen, mais 50 % de mon temps, c'est en recherche.
Puis ça vous permet vraiment de prendre le temps puis d'aller dans ce domaine-là puis sans que ça soit genre un peu au dépend de votre clinique. T'sais, vous êtes vraiment deux moments séparés.
Pour moi, ce que ça m'a laissé faire, c'est d'avoir plus de temps avec ma famille. Pourquoi? Parce que je travaille la nuit. Je travaille le soir. Donc, après que les enfants sont couchés, je travaille. Donc, le jour, je peux aller les amener à l'école, les ramener de l'école, faire le souper. Mais c'est vraiment... Évidemment, je travaille durant la journée aussi. Là. Mais tu sais, je peux changer mon horaire... comme je veux pour ces deux jours-là. Donc, ça laisse la chance de faire la recherche, mais aussi avoir plus de temps pour la famille.
C'est dans quel domaine que vous faites votre recherche?
Alors, moi, j'ai fait, après la médecine, après la résidence, j'ai fait 2 ans de fellowship aux États-Unis, à Indianapolis. Et les 2 meilleures années de toute ma carrière en passant. Il faudra qu'on parle de ça. Là. Alors, ma spécialité, c'est les pierres aux reins puis l'HBP, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Traité avec laser, traité avec nouvelles technologies. Puis ma recherche est dans ce domaine. C'est surtout dans les nouvelles technologies pour les deux. Donc, exemple, le traitement chirurgical de l'HBP, anciennement, puis qu'est-ce qui est considéré comme le gold standard, c'est d'utiliser la résection transurétrale de la prostate. Donc, on utilise l'électrocutter pour resséquer la prostate. Mais ça a beaucoup évolué de ce temps-là. On fait plus, mais on fait encore. Mais là, on utilise des lasers pour traiter l'HBP. Et ce qu'on va avoir au CHUM bientôt, c'est ce qui s'appelle aquablation. Donc, on fait l'ablation de la prostate avec de l'eau à haute vitesse. À haute pression et vitesse.
Oh, wow.
Oui, donc, il n'y a pas de cutter, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de chaleur. Beaucoup d'avantages. C'est fait avec un robot. C'est rapide. Alors, on a fait l'étude il y a 4 ans. On a les résultats de 4 ans maintenant. Donc, on va l'avoir maintenant au CHUM à partir de la semaine prochaine.
Oh, wow.
Ça doit être excitant.
Ça, oui, ça, oui. c'est ça que j'aime avec la recherche. Il faudra qu'on parle de la recherche parce que c'est différent quand tu es étudiant versus quand tu es patron.
Mm-hmm.
L'autre recherche ou une chose qu'on fait présentement, c'est un nouveau scope pour traiter les pierres au niveau du rein. Écoute, moi puis mon collègue qui est à Vancouver, on est les premiers à l'utiliser au monde. C'est un nouveau scope qui va changer la façon qu'on traite les patients avec des pierres aux reins. Donc, c'est vraiment excitant. Puis, c'est ça que j'aime avec la recherche.
Vous avez des résultats immédiats sur ce que vous faites de la recherche dessus. T'sais, vous faites l'appliquer directement en clinique.
Exactement. Puis, ça aide mes patients surtout. Mais d'être vraiment à ce niveau-là, que les compagnies vous demandent votre opinion, puis là, vous faites les essais sur les nouveautés, ça, j'adore ça. J'adore ça.
Ouais.
C'est ça qui m'attire beaucoup avec la recherche.
Puis justement, d'être passé de quand vous travailliez au lab, tu sais, votre premier bac, que vous aimiez vraiment pas ça, à là, être comme un passionné de recherche. Là. C'est quoi le switch?
C'est tellement important, ça, Anne. Quand j'ai été... donc, cette expérience-là, évidemment, c'était pas fameux, mais plus que ça, quand j'ai été étudiant en médecine, quand je voulais faire l'urologie, il fallait se démarquer. Premièrement, je trouve que les étudiants maintenant, là, c'est incroyable qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Juste ça, je trouve incroyable. Dans mon temps, quand moi je faisais la recherche, j'étais différent des autres. tu sais, les gens disent « Oh, t'as fait la recherche. » Mais maintenant, c'est mm-hmm. comme tous les étudiants font la recherche. Tout, c'est comme, tout est avancé. Puis c'est normal, hein? Les générations vont s'améliorer, mais vous êtes vraiment incroyables, les choses que vous êtes capables de faire, là. C'est super. Alors, moi, j'ai fait de la recherche pour me démarquer des autres. Mais j'aimais vraiment pas ça. J'aimais vraiment pas ça. J'ai fait de la recherche. Pas parce que mon superviseur était incroyable. Il est super, super gentil, mais c'était pas des choses qui m'intéressaient beaucoup. C'était l'oncologie. J'ai fait ça aussi pendant la résidence. J'ai fait ça pendant la résidence parce que je savais que je voulais faire un fellowship. Je savais que ça va être important. L'autre chose importante, c'est de faire vos USMLEs. En passant, si vous pensez faire une carrière académique, si vous voulez faire un fellowship, surtout aux États-Unis.
Oui.
Donc, important de faire les USMLEs. Important message parce qu'ils savent à McGill, mais ils ne savent pas à l'Université de Montréal.
Ouais.
Donc, tous mes résidents maintenant, alors 3, 4, sont en train de faire le USMLE. Et moi, je l'ai fait avant l'externat,
ouais,
comme vous faites
ouais.
à McGill.
Est-ce qu'il faut faire toutes les steps? Parce que moi, j'ai entendu des informations contradictoires là-dedans, que le step 1, parfois, n'était pas obligatoire pour les fellowships.
Je pense pas que vous pouvez faire les autres sans le 1, non?
Oui, je ne suis pas sûr. Il va falloir regarder, là, je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais je pense que tu peux faire le step 2 sans le faire le step 1.
So, l'avantage, j'ai fait les 3, c'était 4. Nous, on avait le step 2, c'était 2 étapes. Je ne sais pas
si c'est encore comme ça. Ouais.
Puis il faut aller aux États-Unis, c'est incroyable. Faut aller, moi, je suis allé à Philadelphie pour le faire, le step 2. La raison pourquoi l'USMLE est intéressant pour les États-Unis, c'est parce que ça change ton visa. Donc, si tu as tes USMLE, tu peux avoir un H1B, H1B, et ça te laisse la chance de biler. Alors que l'université t'aime plus parce que tu peux biler pour eux. Et l'autre gros avantage pour vous comme étudiant, c'est que si jamais vous voulez rester aux États-Unis, vous pouvez avec un H1B. Si tu as le J1 ou le J1, tu ne peux pas rester. Il faut que tu quittes les États-Unis. Donc, ça, tu peux avoir un J1 sans USMLE. Donc, il y a des avantages de le faire.
OK.
Alors, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Le fellowship. J'ai fait HBP. Puis, la recherche. quand j'étais étudiant, j'aimais vraiment pas ça. Vraiment, vraiment pas ça. Résidence, je l'ai faite aussi. Puis, j'ai vraiment pas aimé ça. Fellowship, c'était plus intéressant parce que c'était beaucoup plus précis au niveau des calculs rénaux puis l'HBP. Et quand j'ai revenu comme patron, j'ai commencé à faire un petit peu de recherche, mais c'était pas... Ça a pris jusque temps que j'ai fait mes propres recherches sur les choses qui m'intéressaient, que là, j'ai commencé à aimer ça. Donc, le message, c'est que si tu es étudiante, la recherche, c'est important, je pense. Mais il ne faut pas penser que si vous n'aimez pas la recherche, que vous n'allez pas l'aimer plus tard. C'est vraiment une grosse différence quand c'est toi qui l'amène, c'est toi qui décide, c'est quoi les sujets. C'est vraiment plus fun.
Tu vois le projet de A à Z, comment
exact.
Il évolue, comment il y a un impact.
En passant, c'est pourquoi je demande toujours à mes étudiants de trouver des idées eux-mêmes. Moi, je vais toujours supporter les étudiants s'ils ont des idées. J'adore ça. Puis c'est plus intéressant si vous trouvez une idée vous-même, vous les amenez, puis je vais vous aider, évidemment, on s'entend, là. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Des étudiants qui sont plus motivés. Puis c'est difficile au début, on s'entend. Hein. Quand vous commencez les recherches, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui se passe, vous ne connaissez pas la spécialité. Mais après un petit peu d'expérience... quand il y a des idées qui rentrent en tête, c'est bien d'en parler avec ton superviseur. Puis beaucoup de bonnes choses ont sorti de ça.
Mais c'est sûr que tu es plus passionné quand c'est quelque chose que toi, tu as sorti et qui t'intéresse. Ça t'en met plus de t'impliquer là-dedans.
Oui, absolument.
C'est assez difficile de trouver, d'avoir un bon fellowship, genre de trouver un bon endroit pour faire un fellowship.
Oui, absolument. C'est difficile. Moi, je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est de choisir la sous-spécialité. Donc, c'est toujours une étape. Hein? Donc, finalement, vous allez choisir, mettons, exemple, gastro. Vous allez choisir urologie. Vous n'êtes pas venu encore en urologie?
Pas encore.
Faut venir. Mais quand on rentre en biologie ou en médecine interne, en gastro, il n'y a pas beaucoup de temps. Ça va vite. Hein? Mm-hmm. On s'habitue à la résidence. Juste ça, ça prend 1 ou 2 ans. Après ça, il faut être exposé pour rapidement décider qu'est-ce qu'on va faire comme fellowship. C'est important de savoir si on veut faire une carrière académique.
Mm-hmm.
Je pense que c'est très, très important. Moi, j'adore cette partie-là de médecine. J'adore mes patients. J'adore opérer. J'adore aider les patients. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'être capable de les aider rapidement. Donc, les deux choses que je fais... Non. Ce que j'aime beaucoup, c'est les aider rapidement et avec très peu de complications.
Mm-hmm.
Alors, les deux choses que je fais, c'est l'HBP ou l'hypertrophie bénigne de la prostate où mettons, ils ne sont pas capables d'uriner. Je les opère, là, ils urinent.
Mm-hmm.
Le taux de complications est très faible. Mes patients vont à la maison à la même journée de la chirurgie. Pour les pierres aux reins, ils sont en grosse douleur. On enlève la pierre, ils n'ont plus de douleur. Et encore une fois, les complications sont rares. Ça arrive, c'est sûr que ça arrive à tout le monde, mais c'est rare. Comparé à des gros cas d'oncologie, oui, vous avez enlevé le cancer, mais maintenant, la patiente a des complications. Mm. Pas tout le temps, mais c'est sûr que le taux de complications est plus élevé. Ils sont plus malades. Beaucoup de facteurs, mais j'adore cette partie-là. Puis moi, je trouve très difficile les complications. Je pense... C'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup, donc j'essaie d'éviter ça le plus possible. Donc, c'est très important de regarder ça aussi. Hein. La qualité de vie aussi est basée sur si on est content ou non avec notre pratique.
Mm-hmm.
Donc, moi, je ne suis pas capable de vivre avec des complications. Il faut être capable de le vivre avec, mais je trouve ça très lourd, même si j'en ai des complications. Puis c'est rare, mais quand ça arrive, c'est difficile.
Mm-hmm.
Donc, il faut regarder ça aussi, je pense.
Mais en se connaissant, puis en connaissant ce que nous, on est capable de vivre ou non, ça peut vraiment influencer aussi si on est capable de continuer cet emploi-là pour des années.
Exact.
Parce que sinon, si des facteurs comme ça qui influencent, mais ça peut vraiment faire une différence à long terme, j'ai l'impression, sur la pratique. Sure.
Ouais. C'est ça qui vous a fait choisir plus calcul rénaux puis l'hypertrophie de la prostate.
Deux choses, c'est le faible taux de complications, mais aussi l'impact rapide.
Mm-hmm.
L'impact rapide, c'est incroyable. Les patients, ils vont bien après. C'est vraiment le fun de voir ça.
Mm.
Ils sont reconnaissants. Ils veulent toujours donner ma carte à d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes. Puis ça c'est gratifiant. C'est le fun à faire, ça. Puis, mais encore une fois, ça arrive. Hein. Les complications vont arriver à n'importe quel chirurgien. Mais il faut être capable de gérer ça. Mm-hmm. Puis savoir, vous êtes quel type de personne? Êtes-vous capable de gérer ça plus souvent que autre?
Mm-hmm. Puis c'était comment, le 2 ans aux États-Unis? C'est quand même un système de santé qui est très différent que nous. Ouais.
Oui. C'était les 2 meilleures années de toute ma éducation, de loin.
Ouais.
C'était super. Mon directeur de fellowship était incroyable. Il me traitait comme son fils. Il m'a amené à sa maison. Indianapolis, c'est pas une ville vraiment super. En tout cas, c'est ça que je pensais avant. Il faut dire qu'en même temps que moi, j'étais à Indianapolis, ma femme faisait son fellowship elle est radiologue au Glenn.
Okay. Après, physio est allée en radiologie.
Exact, oui. Elle a fait son fellowship à San Diego, en musculosquelettique. Alors, puis mon patron est quand même bien connu dans le monde. Donc, quand il quittait pour faire une conférence, moi, j'allais à San Diego. Donc, je faisais beaucoup de va-et-vient. Mais ce qui est bien avec les États-Unis, surtout pour un chirurgien, c'est que quand vous rentrez dans l'hôpital, l'hôpital veut que vous opérez.
Mm.
C'est l'inverse ici. Quand moi, je rentre dans l'hôpital, l'hôpital sait que moi, je vais coûter le système de santé tant d'argent. C'est une grosse, grosse différence, right? Donc, l'hôpital aux États-Unis dit, « Ah, vous allez opérer. » Donc, le patient, l'assurance du patient va payer. Donc, le plus que vous opérez, le plus d'argent que l'hôpital va faire. Ici, le plus que j'opère, le plus que ça va coûter le gouvernement. Donc, c'est carrément l'inverse. Donc, tout ça pour dire que quand j'étais aux États-Unis, on opérait, avec mon patron, j'ai opéré lundi, mercredi, vendredi, de 8h le matin à 8h le soir minimum.
Wow.
La plupart du temps, on était là jusqu'à 10h, 11h le soir. 3 jours semaine. Puis ma femme était à San Diego, donc c'était parfait. J'avais pas d'enfant, c'était parfait pour moi.
C'est un moment parfait
pour moi. J'ai opéré comme un malade. Je veux dire, 3 jours semaine. Si c'était 6 heures le soir, 18 heures le soir, puis il y a une Pierre qui rentre à l'urgence, on l'ajoutait sur notre liste. Donc, on opérait tellement. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Après ça, j'avais une journée de clinique puis une journée de recherche. Puis la deuxième année, ma femme, elle était patronne au Glen. Il n'y avait pas de Glen, c'était Royal Victoria. Elle est venue pour le dernier six mois de mon fellowship, puis elle a accouché de notre premier fils.
Oh, donc,
elle a fait sa maternité à Indianapolis. Donc, il y a beaucoup de bonnes mémoires. Mais c'était vraiment bien pour l'enseignement, pour opérer. Surtout si vous êtes un chirurgien, il faut faire une fellowship. Puis même si vous êtes en médecine interne, vous voulez faire quelque chose où vous allez être exposé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Moi, quand j'ai retourné comme patron, je me sentais très, très à l'aise à faire les cas. Puis c'est sûr que tu as toujours besoin d'aide quand vous commencez. Là, mais tu veux aller quelque part où vous allez travailler fort, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exposition. Donc, il faut parler avec les fellows qui étaient là avant, juste pour répondre à votre question. Trouver une fellowship et il n'est pas facile. Il faut décider qu'est-ce qu'on veut faire comme sous-spécialité. Après ça, vraiment rechercher les meilleures places, je pense. Mm-hmm. Puis la ville, honnêtement, Indianapolis, c'était formidable. J'ai adoré ça. moi, j'adore les sports. Puis il y a plein de sports aux États-Unis. C'est... Donc, j'ai fait mon premier tailgate pour les jeux, les footballs. Ouais, ouais. Donc, non, c'est vraiment... Je pense que la ville est moins importante.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous avez pensé à un moment donné rester là-bas?
Une excellente question. Je voulais toujours revenir. Je suis né à Montréal. Je voulais revenir. Ma femme avait déjà travaillé déjà au Glen, mais j'avais pas de job à Montréal jusqu'à 6 mois avant de finir.
Wow.
Oui, les gens m'ont dit on aimerait ça que tu reviennes, mais c'est comme ça maintenant. Dans l'ancien temps, il y avait un job déjà prêt quand vous finissez le fellowship. Vous allez en fellowship pour revenir d'habitude. Mm-hmm. Ça arrive encore, mais pas pour moi. Mais moi, que j'ai toujours dit, c'est ça que je veux faire. Je veux trouver la meilleure place pour être entraîné pour faire ça. Puis après ça, si ça ne marche pas à Montréal, bien, je vais trouver une autre place.
Mm-hmm.
Ouais. Mais il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on aime. Ça, c'est la chose la plus importante. Surtout quand vous choisissez une spécialité, là, vous êtes en train de décider, là, c'est tellement, tellement important de choisir quelque chose qu'on aime. Tu sais, comme j'ai dit, ma soeur, toute ma famille, c'est des comptables. Puis ma soeur haït sa job. Puis nous, en médecine, on a la chance vraiment d'aimer ce qu'on fait. Right? On a la chance de choisir une spécialité où on va aller au travail, puis on va être content.
Mm-hmm.
Donc, la chose la plus importante pour vous, c'est de décider quelque chose que vous aimez. Peu importe c'est quoi, médecine interne, chirurgie, médecine familiale, whatever. Mais il faut essayer de trouver quelque chose qu'on aime, puisque on a cette chance. Il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Mm-hmm. Honnêtement, je me sens très, très chanceux d'avoir cette opportunité de vraiment aimer ce que j'aime. Puis la médecine, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir. Hein, c'est même si vous êtes dans... Moi, je suis urologue, mais mon collègue urologue, il ne fait pas de recherche. Il fait juste la clinique. J'ai un autre collègue qui fait beaucoup d'enseignement, pas de recherche. J'ai un autre qui fait juste recherche. Hein, tu sais, donc... Mm-hmm. C'est très vaste, puis dans chaque spécialité, il y a des sous-spécialités. Moi, je suis Pierre et HBP, mon collègue fait juste cancer, j'ai une collègue qui fait juste cancer de la vessie, j'ai une collègue qui fait juste, il travaille juste chez les femmes, reconstruction, donc il y a plein de choses, plein de diversité, mais c'est vraiment, je vous souhaite vraiment de trouver une spécialité que vous aimez. Et puis, c'est pas facile.
Non, c'est sûr.
C'est sûr que c'est pas facile.
Il y a tellement de possibilités, puis ça a l'air de trouver le bon fit. Là,
c'est sûr. Puis, honnêtement, quand vous m'avez invité de venir, c'était surtout à cause de ça, tu sais, pour expliquer c'est quoi l'urologie. Mais si vous choisissez pas urologie, c'est correct. Mais faut essayer de trouver ce qu'on aime, parce que c'est pour le reste de votre vie. Hein. Vous êtes jeune en plus. Donc, c'est 30 ans de faire quelque chose. Si on ne l'aime pas, là, puis il y a des médecins qui n'aiment pas qu'est-ce qu'ils font. Hein, donc, faut essayer de trouver une spécialité qu'on aime beaucoup. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression d'administration, puis beaucoup d'autres choses. Mais si on aime ce qu'on fait, là, le reste, facile.
Mm-hmm. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un aspect, mettons, de votre pratique que vous aimez un peu moins en neurologie ou...
C'est sûr que j'adore opérer. J'adore la recherche. J'adore enseigner. J'enseigne beaucoup. J'enseigne... je ne sais pas si vous avez parlé de ça, là, mais j'enseigne les étudiants en médecine, les résidents. Je supervise beaucoup d'étudiants résidentes et des étudiants en médecine pour des maîtrises, la recherche. J'ai une étudiante en maîtrise. J'enseigne à l'université. Donc, on a un cours à l'Université de Montréal qui s'appelle Nephro-Uro. Vous n'avez pas ça à McGill, je pense. C'est peut-être juste Nephro. Mais ouais. C'est vraiment c'est des néphrologues avec des urologues. Donc, c'est une cour préclinique. Donc, je donne aux étudiants en médecine. Donc, j'adore ça. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas. La seule chose que j'aime pas, c'est notre système un petit peu nous laisse pas traiter comme il faut les patients. Des fois, les listes d'attente sont longues. Mmh. En chirurgie, c'est difficile. C'est ça que j'aime le moins. C'est les patients qui doivent attendre, qui ont une sonde, par exemple. Donc, ils ne sont pas capables d'uriner, donc on met une sonde. Là, il faut y attendre pour la chirurgie. Puis des fois, ça peut être 4, 5, 6 mois, sinon plus. Donc, ça, c'est la partie qui est difficile, de gérer les patients qui doivent attendre.
Oui. Parce que ça a tellement de sentir un peu impuissant dans tout ça aussi. Oui,
100%. C'est difficile. C'est difficile, puis on essaie de faire le mieux possible, mais... c'est pas toujours facile. Surtout avec COVID, c'était pas facile.
Ouais, la priorité des...
C'est quand même incroyable que ça fait 20 minutes qu'on parle puis on n'a pas parlé de COVID encore. C'est quand même bien.
C'est ça. Quand même.
Ça fait du bien.
Là, vous mentionniez que vous aviez une collègue qui faisait juste des femmes. Là, comme... C'est quel pourcentage de votre clientèle que c'est des femmes en urologie? On dirait que dans ma tête, c'est comme juste des hommes quasiment.
Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est juste des hommes.
Ça,
c'est juste des hommes. Donc ça, c'est 100%. Mais je dirais à peu près 50%. Moi, ma pratique, c'est les pierres aux reins. Et ça, 50% de ça, c'est les femmes.
J'avoue.
Donc, il y a beaucoup de femmes. Cancer, la vessie, c'est sûr que c'est plus chez les hommes que les femmes, là, mais il y en a. Donc, j'ai une ou deux collègues qui font surtout ce qu'on appelle... ça a changé un petit peu, mais avant, c'était female urology. Maintenant, c'est plus functional urology. Donc, surtout des problèmes de miction, incontinence. Donc, il y a beaucoup de femmes dans cette... domaine-là. Quoi d'autre qu'on fait chez nous? Neuro-uro, c'est notre sous-spécialité où il y a encore des femmes. Mais effectivement, vous avez raison. Je dirais probablement 70% de notre clientèle, c'est les hommes.
Okay.
À peu près.
Puis on a reçu une uro-gynécologue aussi.
Oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de overlap d'abord avec...
Oui, c'est intéressant. Docteur Bernard, hein?
Oui.
J'ai fait mon premier stage... option en résidence en urogynéco à Maisonneuve-Rosemont.
OK.
Ouais. Sûrement, elle ne se souvient pas de moi, là. Mais oui, il y a un overlap, justement, puis ils sont en train de décider comment ils vont gérer ça au niveau de la fellowship. Ça prend un fellowship pour être un urogynéco. Ils sont en train de travailler dessus, je pense. Mais ils travaillent ensemble, souvent. Je pense que c'est correct, un ou l'autre, là.
Puis est-ce que vous travaillez avec beaucoup d'autres spécialités en urologie en général?
Donc, reconstruction, souvent avec la plastie. Les chirurgies, je ne sais pas comment dire en français, transgender. Les chirurgies qu'ils font, souvent c'est les deux. Souvent c'est la plastie, mais dépendamment des sites, l'urologue joue un rôle important. Quoi d'autre qu'on travaille avec les autres? ORL, aussi pour la reconstruction, surtout en reconstruction. Parce qu'on a besoin de, par exemple, un patient qui a eu un trauma et, mettons, il n'y a plus de urètre, ou son urètre est sténosé. Il faut prendre un petit peu de joue en dedans pour recréer l'urètre. Oui. Donc, ça, c'est ORL. La plastie, quand il faut faire une lambeau, quelque chose pour une grosse cancer. Urogynéco, travaillent ensemble. Je pense que c'est tout. Vasculaire, des fois.
Puis, est-ce que vous voyez beaucoup de vos collègues? Vous avez dit que vous pouvez aussi juste vous concentrer sur le côté médicinal. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'après avoir peut-être fini d'opérer, vous pourrez continuer cette pratique-là? C'est-tu quelque chose aussi qui est une bonne branche?
Oui. Il y en a plusieurs urologues plus âgés. Pas chez nous. Parce qu'au centre universitaire, c'est un petit peu différent. À un moment donné, il faut, si vous arrêtez d'opérer, c'est un petit peu compliqué de rester avec une prême dans un centre académique. Mais dans la communauté, oui, ça arrive souvent. À la fin de la carrière, ils arrêtent d'opérer, puis là, ils vont continuer à faire la clinique. Mm-hmm. Puis c'est facile de faire ça. Facile. Parce que l'âge de notre population est juste en train d'augmenter. Mm-hmm. L'âge moyen, hein, c'est incroyable. Et puis, l'urologie, c'est souvent... les hommes âgés ont besoin d'urologues de plus en plus. Donc, notre clientèle augmente de façon importante. Donc, ça va être quelque chose facile à faire plus tard dans la carrière. C'est pas quelque chose que j'aimerais faire, moi, mais...
pour l'instant, en tout cas.
Pas pour l'instant, exact. Pour l'instant, tout à fait.
Puis, y a-t-il des grosses différences? Mettons, une pratique d'urologie en région éloignée, là, savez-vous un peu si c'est très différent de...
C'est très différent. Très, très différent. Juste pour dire que une carrière académique, pour moi, c'est une carrière qui inclut soit l'enseignement, la recherche, d'être vraiment, vraiment sur le bord de toute nouveauté. Mm-hmm. Hein? Donc, vraiment, c'est ça qui m'excite le plus, là, c'est vraiment ça, comme vous voyez. Dans une centre communautaire ou éloigné, c'est très différent. C'est rare qu'il y a des résidents, des fois, oui. Des étudiants en médecine aussi, c'est plus rare. Donc, c'est beaucoup plus une pratique clinique. Souvent, ils ne vont pas être sous-spécialisés. Right? Mm-hmm. Donc, urologue au CHUM, on est tous sous-spécialisés. Donc, moi, je fais juste Pierre et HBP. Il y en a une qui fait juste reconstruction, une qui fait juste cancer de la prostate. Puis, donc, très sous-spécialité. En région, même pas éloignée, même centre communautaire, pas d'affiliation universitaire, là, les urologues font quasiment tout.
Mm-hmm.
Donc, ils vont faire les gros cas de cancer et ils vont faire les pierres et ils vont faire l'HBP. Donc, c'est une pratique très différente. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez. C'est comme médecine familiale et médecine interne. Médecine interne vont savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être médecine interne, c'est pas la meilleure, mais médecine familiale, ils savent pas beaucoup. Ils savent un petit peu sur beaucoup de choses versus gastro, ils savent beaucoup sur gastro.
Ouais.
Mm-hmm.
Donc, urologue en centre universitaire, moi, je sais beaucoup, beaucoup sur les pierres puis l'HBP, mais je ne sais pas beaucoup sur les autres choses. Mm-hmm. Un urologue communautaire doit savoir un petit peu sur tout. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai toujours aimé pousser au bout
sur un sujet, genre.
Ouais, puis tout le monde est différent. Mm-hmm. Donc, tu sais, si vous aimez tout en urologie, peut-être que t'es mieux dans un centre communautaire. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime pousser au fond de quelque chose. Alors, pour moi, c'est parfait de faire juste ça, là. Et je ferais vraiment juste ça. Je fais... des fois, je vais voir d'autres patients avec d'autres problèmes de santé urologiques, là. Mais c'est vraiment ma pratique. Et Pierre Aurin, okay. HBP. Même la chirurgie que je fais, là, c'est... HBP et Pierre Aurin.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qu'on a reçu qui ont fait un fellowship puis qui, mettons, ils vont faire une journée par semaine une clinique spéciale dans leur spécialité, mais que le reste du temps, ils font comme de tout.
Mm-hmm. Oui.
Mais vous, c'est vraiment presque juste votre... Okay.
Quand j'ai revenu de fellowship, j'ai commencé la première clinique de l'ITIAS au Québec, probablement au Canada. Donc j'ai recruté deux néphrologues puis un diététiste. Donc, on fait une clinique de l'ITIAS. Ça, c'est une journée de ma semaine. Puis, mais tout est focusé sur ça. C'est rare que je vois d'autres choses.
Est-ce que vous trouvez que ça devient redondant, à un moment donné?
C'est une excellente question. Non. Je pense vraiment pas parce que l'évolution en médecine, là, c'est incroyable. C'est tellement, tellement rapide. Il y a deux choses. Une, c'est que ce que j'aime aussi, c'est que... pas que je suis le meilleur, là, mais je suis vraiment bon dans cette chirurgie, dans mm-hmm. ces chirurgies-là. Mm-hmm. Pour la pierre au rein, je fais deux chirurgies, puis je suis pas mal bon dans ça. Pour l'HPP, même chose. Je suis très spécialisé. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas très bons aussi, là, mais la pratique nous amène
à être... Ça fait beaucoup de répétitions.
Donc, pour ça, j'adore ça. Mais c'est toujours en train d'évoluer. Il y a toujours des nouveautés. C'est incroyable. L'évolution est tellement rapide. Juste la technologie, comme je vous ai mentionné, right? Donc, c'est vraiment pas redondant. C'est extrêmement, extrêmement stimulant.
Donc, finalement, ouais, pour finir, un petit dernier conseil, où vous avez déjà dit beaucoup, là, peut-être résumé, un conseil pour des étudiants comme nous qui sont à la recherche de leur carrière.
Je pense que c'est le message ou les messages importants, à mon avis, c'est vraiment essayer de choisir la spécialité que vous aimez, que vous avez un patient qui va vous donner de la joie, qui vous allez être content. Il faut vraiment penser à ça. La qualité de vie est tellement importante. La recherche que vous faites comme étudiant n'est probablement pas la recherche que vous allez faire plus tard. Donc, il ne faut pas être biaisé par ça. Amusez-vous bien. Travaille fort. Il faut travailler fort. Je pense qu'on travaille tous fort. Je pense qu'une carrière académique est extrêmement valorisant et vraiment le fun. J'adore ça, puis je vous souhaite vraiment, j'espère que vous allez trouver quelque chose que vous aimez. Puis si jamais vous voulez faire la recherche en urologie, si vous voulez venir voir la chirurgie qu'on fait, vous pouvez venir à ma clinique, ma salle d'op n'importe quand. Même si vous voulez faire gastro,
ouais.
Métier d'interne.
Merci beaucoup. Merci. Puis pour nos auditeurs, on n'oublie pas, on aime, on partage, puis nous laissez des commentaires, des questions. Puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci.
Wow.